Chapitre 1er. Des avertissements négligés. Pratt Valley est une fine bande de terre entourée par les montagnes côtières de la Californie, et en ce jour de printemps de l'année 1909, il n'existait probablement aucun autre endroit aussi agréable dans le monde. Dominée par la falaise abrupte de Howell Mountain, la vallée s'étalait en pente douce vers le nord, tout illuminée par le soleil du matin, baignée par les douces odeurs des vergers et des vignes, et celles de la terre fraîchement retournée. Un endroit paisible dont beaucoup souhaiteraient pouvoir profiter. Dans une grande maison du début de la vallée vivait une grand-mère d'un âge avancé, aux yeux bleu foncé, dotée d'un sens de l'humour aigu. Au dire de beaucoup, elle ne paraissait pas ses 82 ans. Chaque matin, après le petit déjeuner, on pouvait la voir parcourir sa ferme de 30 hectares, inspectant les vergers et veillant sur le bétail. En dépit de ces vives objections de la gouvernante, on savait qu'elle n'hésitait pas à braver la pluie pour assister à la naissance d'un petit veau. Quand elle n'inspectait pas sa ferme, elle sortait se promener en landau, et ses voisins constataient qu'un grand nombre de visiteurs défilaient chez elle, comme si une visite pour écouter ce qu'elle avait à dire valait vraiment la peine qu'on paye un billet de train. De fait, elle avait vraiment beaucoup de choses à dire sur de nombreux sujets, et tout ce qu'elle disait n'était pas forcément facile à entendre. Son nom était Ellen White. Si on l'en croyait, il y avait un rapport entre la consommation de viande animale et la maladie. Elle disait aussi que le tabac était un poison insidieux, et n'arrêtait pas de répéter que le monde tel qu'il était, cette planète sous leurs pieds, n'allait pas durer longtemps. Bientôt, prétendait-elle, les affaires humaines allaient s'effondrer et plonger dans un désastre si grand que l'imagination la plus fertile ne pouvait même pas le concevoir. En 1909, ce genre d'affirmation n'avait aucune raison d'être. L'Amérique était en paix, le drapeau américain flottait de l'État du Maine à Manille aux Philippines, et l'avenir semblait s'élancer vers un ciel sans nuages. À part quelques observateurs inquiets tourmentés par les folles alliances militaires qui se tissaient en Europe, la plupart des gens ne voyaient aucun motif sérieux d'inquiétude se profiler. Pourtant, Ellen White parlait obstinément d'un futur proche avec une guerre. Elle déclarait sans embâge que des flottes entières allaient se mettre en route et que des millions de gens allaient perdre la vie. À un moment, elle évoqua même l'existence d'armes à cause desquelles plus personne ne serait en sécurité en quelque endroit du monde que ce soit. Ce printemps-là, elle allait encore donner un autre avertissement. Elle était sur le point d'achever la rédaction d'un nouveau livre, le volume 9 de « Témoignages pour l'Église », dont les premières pages évoquaient des temps troublés dans un avenir proche. Nous vivons les temps de la fin. La rapidité de l'accomplissement des signes montre que la seconde venue du Christ est proche. Les catastrophes sur terre et sur mer, l'instabilité de la vie sociale, les menaces de guerre, tout est très préoccupant. Cela indique l'imminence d'événements d'une gravité exceptionnelle. D'importants changements vont avoir lieu dans notre monde et les mouvements ultimes seront rapides. Témoignage, volume 9, page 11. En fait, ces changements pourraient être plus graves que ce que pensaient la plupart de ses lecteurs. Elle parlait de terribles conflits dans un avenir proche, d'injustices sociales, de conflits dans le monde du travail. La montée du crime allait mettre tout le monde en péril, hommes, femmes, petits-enfants, avec des manifestations si étranges qu'elles sembleraient démoniaques. De fréquentes grèves creuseraient le fossé entre riches et pauvres. Elle prédisait, accompagnant la dégradation du monde social, des troubles économiques et donnait une description des dirigeants cherchant en vain à trouver des places financières sûres pour leurs investissements. Témoignage, volume 9, page 13. Et ce n'était pas le pire de tout. Elle prédisait aussi que les plus grandes villes du monde seraient confrontées à une force destructive si puissante que les moyens de défense humains ne seraient presque d'aucune utilité. Elle écrivit « Une nuit, lors d'un séjour à New York, il me fut donné de voir des bâtiments immenses qui s'élevaient sur de nombreux étages vers le ciel. Avec fierté, on les disait à l'épreuve des flammes, virtuellement indestructibles. Et si l'on en juge par les risques connus à l'époque, effectivement, c'était le cas. Au cours des 20 années précédentes, les progrès dans le domaine de la construction étaient tels que l'on utilisait maintenant du béton et de l'acier de construction. Les nouveaux bâtiments étaient si résistants que pendant la Seconde Guerre mondiale, un gratte-ciel résista aux assauts d'un avion multimoteur. Cependant, au cours de cette nuit étrange passée à New York, Ellen White vit l'impossible. Les bâtiments indestructibles étaient en flammes et personne ne parvenait à éteindre l'incendie. Témoignage volume 9, pages 12 et 13. La scène qui me fut montrée ensuite était une alerte incendie. Des hommes regardaient les majestueux gratte-ciel résistant au feu et disaient « Ils étaient parfaitement sûrs, mais ces bâtiments étaient en train de brûler comme de l'étoupe. « Vient une époque, disait-elle, où il n'existera aucun matériau de construction possible pour assurer l'indestructibilité de telles constructions. » Elle écrivit des alertes au feu dans l'avenir, au cours desquelles les pompiers se trouvaient dans l'incapacité de mettre leurs machines en action. Témoignage volume 9, page 13. Pendant 41 ans, ces prédictions attendirent leur accomplissement dans les premières pages du volume 9, si sinistres et apparemment si exagérées qu'il fallait une bonne dose de foi pour accepter les écrits d'Ellen White. Dans le monde entier, on érigea des bâtiments de ce genre, avec les briques, l'acier et autres moyens les plus coûteux qui soient. Puis un jour, le 6 août 1945, la ville de Hiroshima fut complètement détruite par le feu après le largage de la première bombe atomique. Des bâtiments faits de béton et d'acier disparurent dans un incendie qu'aucun effort humain ne fut capable d'arrêter. Dans la banlieue de cette ville, des constructions en flammes ne furent pas prises en charge parce que la plus grande partie du matériel des brigades du feu avait disparu. De fait, les pompiers étaient incapables de se servir de leurs engins. Volume 9, page 13. Économie instable, montée du crime, spectre d'armement et menaces militaires à l'échelle mondiale. L'avertissement était bien là, clair, solennel, dans les premières pages fraîchement sorties des presses de la maison d'édition. Pour quiconque voulait bien se donner la peine de le lire, l'avenir était déjà écrit là. Quelque part au-delà du voile qui le cachait à nos yeux, au-delà du printemps ensoleillé de 1909, au-delà de la sécurité dans laquelle l'Amérique baignait, de la croissance économique, au-delà de la fin de l'ère victorienne et ses derniers lambeaux de moralité, il y avait un avenir où plus rien ne serait sûr, ni l'argent, ni la moralité, ni le voisinage, ni le monde lui-même, tout en bleu ciel et lumière dorée sous le doux soleil, ce soleil dont le terrible secret de chaleur et de puissance serait d'ici 43 ans dompté par les hommes qui en feraient la bombe thermonucléaire. Il fallait vite achever l'œuvre de Dieu, ou bien le monde allait basculer dans ce terrible cauchemar entrevu par Ellen White qu'elle avait décrit à une église assoupie. « La tempête est proche », avait-elle averti en 1890, « et nous devons être prêts à l'affronter. Des troubles surgiront de toutes parts. Des milliers de navires sombreront dans les profondeurs de la mer. Les flottes seront anéanties et des millions de vies humaines seront sacrifiées. Des incendies éclateront partout sans qu'on s'y attende et nous serons incapables de les éteindre. Il y aura des perturbations, des collisions et des morts inopinées sur les grands axes de transport. La fin est proche. Le temps de probation touche à sa fin. Oh, cherchons Dieu pendant qu'il est encore possible de le trouver. » Dans la revue Signe des temps du 21 avril 1890. 14 années s'écoulèrent et l'avertissement fut réitéré, encore plus pressant. Bientôt il y aura la mort et la destruction. Le crime augmentera et des révoltes des pauvres contre les nantis qui se seront enrichis à leurs dépens. Ceux qui seront privés de la protection de Dieu ne trouveront asile en aucun lieu, ni en aucune position. Des agents humains sont en train de s'entraîner et d'utiliser leur puissance inventive pour mettre en œuvre la plus puissante conspiration dans le but de blesser et de tuer. Que les infrastructures de travail et les ouvriers s'installent en d'autres lieux. Témoignage volume 8, page 50. Nous étions alors en 1909. Déjà à cette époque avait éclaté une révolte éclair qui avait échoué en Russie, donnant un coup de semonce à l'histoire concernant les événements proches à venir. En Europe de l'Ouest, des chefs d'État inquiets arpentaient les couloirs ornés de miroirs et de dorures dans lesquels flottait l'odeur de la cire à cacheter chaude. Ils y scellaient des alliances militaires qui ne pouvaient que mener le monde à la guerre. En Allemagne, le comte Alfred von Schlieffen dessinait sur les cartes des flèches hardies en direction des territoires de l'Ouest, traversant la Belgique et atteignant le cœur de la France, esquisse de la Première Guerre mondiale. Et Ellen White, ayant la vision d'un avenir presque indescriptible, eut la révélation de cette nuit mémorable, d'une boule de feu immense tombant sur des demeures magnifiques, causant leur destruction instantanée. Apparemment, les bâtiments ne brûlaient pas, pas au sens où on l'entendait en 1909. Ils semblèrent disparaître purement et simplement en une fraction de seconde. Témoignage volume 8, page 28. En un mot, incroyable. Par-delà les toits de Elmshaven, Pratt Valley s'étendait dans un écrin de verdure chatoyante et s'éveillait dans la douce lumière d'un matin baignant dans la brume légère. Les chevaux avançaient à petits trots, tirant la charrette des familles de fermiers vers Sainte-Héléna, toute proche, et bien que cette excursion ne fît pas plus de 6 ou 7 kilomètres, la plupart des gens se réjouissaient de passer le meilleur de la journée dans ce petit voyage vers la ville. Pas d'asile sûr, en aucun lieu, ni aucune position. Par-delà Sainte-Héléna s'étendait la baie de San Francisco et encore plus loin l'océan Pacifique, près de 170 millions de kilomètres carrés de désert liquide protégeant les frontières ouest de l'Amérique. À l'est, l'Atlantique faisait tampon contre les conflits pouvant se dérouler en Europe, tandis qu'au nord, le paysage se fondait en un vaste bouclier dissuasif représenté par la calotte polaire. Les ennuis ne pouvaient de toute évidence pas venir de ces endroits-là, n'est-ce pas? Pourtant, Ellen White avait dépeint un monde où l'on ne serait nulle part en sécurité et où l'on n'aurait nul endroit où se cacher. Il faut admettre que cela n'était pas facile à croire, et un certain nombre de gens étaient prêts à qualifier ces écrits de fin du monde d'élucubration d'une femme dépourvue de son bon sens. Les critiques les plus sévères, en fait, vinrent de personnes au sein ou en marge de l'Église. Pour revenir à l'année 1889, un pasteur adventiste apostat du nom de D. M. Canwright avait clamé haut et fort qu'elle n'était qu'un imposteur souffrant de désordres mentaux et qu'elle avait plagié une grande partie de ses ouvrages. Au tout début du XXe siècle, le docteur John Harver Kellogg avait tenu des propos semblables, tout comme Albion Ballanger, ex-pasteur mécontent en perpétuel désaccord avec elle sur le sujet du sanctuaire. Tout ceci avait engendré des remous, et non des moindres, au sein du monde adventiste, où les opposants à Madame White avaient déjà commencé à remettre en question un certain nombre de bases même du message adventiste. Le conflit avait atteint une telle intensité que même certains ouvriers de l'œuvre avaient été emportés par la vague de la confusion doctrinale et d'autres les avaient suivis dans ce mouvement. Après tout, il était beaucoup plus confortable d'écouter les critiques des détracteurs plutôt que les discours dérangeants d'Ellen White. Et ce fut ainsi que les adventistes furent peu à peu contraints à prendre une décision importante. Choisiraient-ils d'écouter les discours rassurants des critiques qui allait dans le sens des inclinations humaines, ou bien choisirait-il de continuer à écouter l'esprit de prophétie, avec ses étranges descriptions de guerre se profilant dans un avenir proche, une révolution qui menacerait le monde entier, une crise économique et des boules de feu qui pouvaient tout détruire en un clin d'œil? Ainsi donc, l'Église attendit, comme sidérée par ce choix à faire et par la controverse, secouée par le choc récent que venait d'avoir lieu et avait généré une apostasie massive qu'on a appelée Alpha, au cours de laquelle certaines des plus brillantes lumières avaient disparu. On ne pouvait pas encore s'en apercevoir, mais déjà de sombres nuages s'accumulaient à l'horizon. 5 ans plus tard, la Première Guerre mondiale allait éclater et balayer l'Europe, changeant le cours de l'histoire à tout jamais. Il restait encore un peu de temps, mais à ce moment-là, le temps était la chose la plus précieuse au monde. Bientôt, elle n'existerait plus. La chance de pouvoir semer, à son terme, l'œuvre divine dans un climat de paix et de prospérité s'envolerait. Une opportunité unique allait disparaître, laissant un monde divisé dans lequel une grande partie de la population allait désormais être sourde à l'Évangile pendant un temps. Tout ceci se passait au printemps 1909. Pendant ce temps, de l'autre côté du monde, deux hommes sortaient de l'ombre et faisaient leur entrée dans l'histoire. L'un était Albert Einstein, juif allemand, d'une intelligence brillante. L'autre était un révolutionnaire chauve, au regard d'acier, du nom de Nikolaï Lénine.